Bonjour.
Ceci est un test.
Parle aussi à même
toi. Bonjour. Ça me stresse maintenant.
Alors ça commence fort avec tous ces rires, bienvenue dans le Clo-Clo Club, moi c'est Chloé et on se retrouve chaque semaine habituellement en solo ou en duo pour aborder plein de thématiques qui me tiennent à cœur. Et cette semaine c'est un petit peu différent, j'avais envie de faire un hors-série avec mes amis que vous avez déjà pu entendre respectivement dans différents épisodes du Clo-Clo Club, des épisodes plus intimistes. Là je les ai réunis pour qu'on aborde ensemble un sujet, ils avaient le choix entre plusieurs thématiques et ils ont choisi... Et vous allez le voir, en fait, c'est le titre de l'épisode. Normalement, vous êtes un peu préparés. C'est parti beaucoup plus loin. On a bien dérivé du sujet. Mais je trouve que le rendu est hyper sympa et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Si jamais c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au Clo-Clo Club, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je vous laisse avec ce super épisode, hein, tout simplement. Bonne écoute.
On projette un petit peu.
Oui, un petit peu.
Voilà,
plus
que je parle pas comme je parle d'habitude.
Accessoirement. si vous voulez, on peut commencer par un petit tour de table, juste qu'on ait vos voix, vos prénoms. Voilà, on est 10 000, donc en fait, faut vraiment préciser.
Et Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a pas parlé depuis le début.
Si vous voulez faire intervenir des petites voix, hein,
ouais, moi je serais chaud pour dire des choses que j'oserais pas dire, tu vois. Barbara, elle a beaucoup de choses à dire, Barbara. Et on ne m'empêchera pas parler, hein, s'il vous plaît.
Alors, Barbara, du coup.
Non. Alors, comment je m'appelle déjà?
C'est que des voix en plus que vous avez déjà entendu si vous écoutez le Clo-Clo Club de façon assidue, puisque vous êtes tous venus faire un épisode en solo. On a Louis.
Bonjour à tous.
Donc vous pouvez l'appeler Jean-Jacques tout le long de l'épisode. On a Marion, aka Barbara.
Barbara qui est du coup mon double maléfique, mais sinon c'est Marion.
Voilà, ça vous place déjà le personnage. Et puis on a Emeline aussi.
Ouais, Emeline, juste Emeline, parce que je suis comme ça.
Ça me plaît. Unique, authentique.
Voilà, je suis unique, il n'y a pas besoin de...
Entier, intègre.
Il n'y a que moi et moi dans ma tête.
J'ai fait une chance.
C'est déjà suffisant, c'est pour ça.
Je sens que ça va être dur de vous canaliser. On a bu avant et je crois pas que ça aide en fait.
On a pas mal de le dire parce que si ça fait la promotion de.
J'ai pas dit ce qu'on avait bu.
On a bu du jus.
Ça commence par M, ça finit par Escale. C'est pour le voyage. Non, je vais faire un petit groupe WhatsApp où je vous ai mis dedans et puis d'autres personnes que j'espère recevoir bientôt aussi dans un petit épisode de groupe pour qu'on puisse enregistrer un format un petit peu différent, hein, hors série du Clo-Clo Club. Et vous avez choisi la thématique digne d'un entretien d'embauche, à savoir tu te vois où dans 10 ans. Ouais. J'ai une première question du coup pour vous. Qu'est-ce qui vous a attiré avec ce sujet-là par rapport à l'autre où on devait parler d'amour et d'amitié?
Pour moi, c'était assez simple. Je me retrouvais beaucoup moins dans l'autre thème, les ruptures et que ce soit amicales ou amoureuses. J'en ai pas eu énormément dans ma vie. En tout cas, pas
choisi. Excuse-nous.
Non, mais ceci parce que j'ai eu peu d'aventures, peu de vraies relations. En fait, je considère que la seule vraie relation dans laquelle c'est celle dans laquelle je suis actuellement. Donc,
Du coup, t'es trop sympa, t'as quand même choisi.
J'ai quand même envie de participer. Et non, sinon, pourquoi celui-là? J'ai plein de sujets qui me traversent actuellement au niveau professionnel et dans mes projets. Je me disais, c'est une bonne idée, c'est un bon moment pour y réfléchir, en fait, me forcer même à moi à y réfléchir.
Mmh. Et toi, Marion?
Moi, je suis en post-crise de la trentaine, je pense. Elle a été très très express. Je crois que vraiment, le jour de mes 30 ans et à mes 30 ans, il n'y a pas eu de crise. Et en fait, juste, j'ai vécu une sorte de confinement en ayant un plâtre pendant 3 semaines en mai dernier. Mmh. Et là, j'ai eu trop de temps pour réfléchir et laisser mon esprit aller vers tout ce qui me stresse par rapport à l'avenir. Donc je trouvais que c'était intéressant de me confronter à cette question et puis d'en parler aussi avec d'autres. On en a déjà parlé toutes les deux, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je vois pas de... Enfin, on va en parler, hein, je vais pas spoiler.
Tu peux spoiler, on commence la conversation, t'inquiète.
Mais bon, si pour Barbara l'avenir est pour Marion il l'est un peu moins. Donc voilà, j'aime à penser qu'il y a plein de possibilités et du coup je trouve que c'est un sujet super intéressant à explorer.
Et toi, Emeline?
Alors pour moi, pour le coup, j'ai eu une crise de la 25e année. Depuis
le quart de siècle.
Voilà, le quart de siècle. Et j'ai toujours été dans un état d'esprit où je réfléchissais sur le long terme. Et j'avais toujours un plan, pas forcément sur 10 ans, mais en tout cas sur beaucoup d'années. Et je savais où est-ce que j'allais et comment je voulais y aller. Et même si ça a changé entre temps, parce que bon, bah voilà, on grandit, on évolue, etc. Depuis que je suis enfant, littéralement, je sais où je veux et ce que. Où est-ce que je vais. Je n'ai pas vu moi. Où est-ce que je vais, en tout cas. Oui, où est-ce que je vais, c'est bon. Ce que je vais, etc. Et depuis quelques années, en fait, depuis le Covid, j'ai l'impression. Donc, est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est juste. Je suis arrivée à un état de un moment de ma vie où je n'ai plus cette pensée. Ce genre de pensée. Où je n'arrive plus forcément à me projeter, ou en tout cas je ne me projette plus autant parce que bah, tout est plus incertain et je me rends compte que quand j'avais 10 ans je me voyais à un certain stade de ma vie à 25 ans et aujourd'hui, bon, j'en ai 26 maintenant, mais quand j'ai atteint mes 25 ans j'étais en mode mais c'est pas du tout là où j'ai envie d'être, enfin là où je pensais être.
Tu te voyais comment justement
Alors pour moi 25 ans déjà c'était vieux.
Ouais, de ouf.
Donc 25 ans...
Mais je pense quand t'as 10 ans faire de la vingtaine, t'es un adulte, t'es un grand.
T'es vieux en fait, c'est vieux. Même pas, c'est pas adulte, c'est que t'es vieux 25 ans. Et du coup je me voyais plutôt classique hein. Le CDI, le premier appart ou la première maison, limite je me voyais mariée avec un enfant, alors 25 ans, enfin je suis arrivée à 25 ans, j'avais absolument rien de ça quoi, je sais pas ce que je veux dans ma vie, toujours chez mes parents, je veux juste voyager, je veux rien faire en fait, enfin j'étais vraiment dans un tout autre état d'esprit, et ça m'a fait vraiment flipper, parce qu'en plus de ça, 25 ans, c'est un peu l'âge où t'as un peu l'entre-deux, surtout dans ton entourage, t'as les gens qui justement se posent et se casent, et puis t'as les autres où t'es un peu en mode, on sait pas ce qu'on veut, on est là, on évolue, et puis voilà. Et donc j'ai eu un petit bad à ce moment-là, et je rigole assez souvent, parce qu'il y a un petit truc qui m'a fait rire, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'était un truc, je pense que c'était sur Twitter, où il disait, pour tous les gens qui ont 25 ans et qui sont en bad parce qu'ils ont 25 ans, n'oubliez pas que la première saison de Friends, elle commence quand ils en ont 26. Et donc en fait, c'est pas que t'es à un moment de ta vie, voilà, c'est que t'es juste au début de Friends, et tout ce qui va se passer après, c'est ce qui va arriver dans ta vie, donc t'inquiète, t'as le temps, 25 ans, c'est pas vieux, t'es au tout début de ta vie, il y a tellement de choses qui arrivent, donc... indirectement ça m'a un peu rassurée bizarrement, peut-être parce que voilà c'est...
Mais oui, 25 ans c'est vraiment le début où tu commences à être vraiment indépendant, tu vois.
Ouais. En fait c'est ça, financièrement, professionnellement,
tu commences à avoir vraiment la possibilité de faire des vrais choix et pas de les subir comme ce que t'as pu avoir avant, parce que finalement les premiers choix que t'as fait en orientation post-bac et autres comme ça, c'est le truc du moment qui...
Ouais, en même temps, tu vois, moi, mes 25 ans, c'est arrivé, j'ai fêté mes 25 ans et il y a eu le Covid. Voilà, l'enchaînement, ça a été ça. Et c'était un âge hyper charnière, pareil, de plein de remises en question, j'ai fini une relation, j'ai changé de taf, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements d'un coup. Et ça n'a pas fini après, ça a enchaîné les changements. Mais il y a eu ce truc de, justement, à partir de ce moment-là, perdre un peu pied, de avoir du mal à me stabiliser et à enchaîner les changements en boucle. Et d'avoir l'impression que ce que tu dis, en fait, à 25 ans, t'as l'impression que tes potes se casent, et puis en fait, à 26, il y en a plein qui rompent, et il y en a plein d'autres qui se casent, et du coup, tu dis, mais tout le monde se case à nouveau. En fait, c'est pareil aux 27, 28, et t'enchaînes, et tu dis, mais finalement, c'est un peu la même boucle là, et c'est juste projeté sur le long terme. Quand on était petit, moi, je te rejoins, Emeline, là-dessus, je me visualisais, alors moi, mon référentiel, c'était plus genre vers 27, 28 ans, parce que c'est l'âge auquel ma mère m'a eu. Et j'étais, ouais, je serai journaliste, déjà. Je vais être dans une maison ou un appartement, je savais pas trop, mais hyper lumineux, avec plein de plantes, des livres, des chats, et un chat, pardon. Et justement, pouvoir créer, avoir un atelier, en fait, où je fais plein de choses. Et potentiellement, j'ai un gars aussi, c'est sympa, c'est mon amoureux, ça se passe bien. Et on aura deux enfants. C'était ça, un peu, tu vois, la projection.
Comme s'ils étaient en package avec le reste. Il n'y a pas toutes les étapes. Mais de comment pas le truc se
avoir
passe.
Les enfants maintenant pour autant, tu vois. C'était aussi ce truc de projection. Et bah, j'y réfléchis, je me suis dit, est-ce que cette chose-là, je me suis rangée sur ces idées-là, ou est-ce que je suis vraiment partie sur autre chose? Finalement, je suis dans un appart hyper lumineux avec plein de livres, un chat, des plantes. Je fais un taf qui s'apparente quand même beaucoup à de la création de contenu, à de l'éditorial, à des interviews, donc on est quand même pas si loin.
Et tu parlais de ton atelier, je pense que ton atelier il est dans ta tête principalement. En ouais. Fait, tu vois, 'fin,
puis un coin bureau, tu vois.
Quand je t'imagine toi, j'imagine tout l'espace qu'il y a dans ta tête avec toute ta créativité et tout ce qui se passe, toute ton imagination, tu vois, qu'il y a de l'espace pour se déployer. En fait, je suis pas sûre que t'aies besoin d'un. Je suis pas ta psy, hein.
Mais... Non, ma tête, c'est une bibliothèque hyper rangée, donc ça me fait beaucoup rire.
Non, mais je suis pas sûre que t'aies besoin d'un atelier au sens physique du terme. Je pense que t'en as envie, mais ta créativité peut se développer.
Ouais, mais c'est plus d'avoir un lieu pour ça, ça veut dire, tu vois, avoir du temps aussi dédié à ça.
Ouais, bien sûr.
Et j'imaginais plus d'avoir plus de temps pour ça, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les derniers épisodes du podcast, je parle autant du fait que je me pose beaucoup de questions de où être, se sentir bien chez soi, toutes ces thématiques, parce que je me sens à l'étroit, beaucoup, dans un appartement parisien. Et je pense que, tu vois, même si j'ai coché plein de cases de cette vision, de cette projection, aujourd'hui je suis incapable d'avoir le même type de projection pour la moi de dans 10 ans. C'est juste,
il y a rien qui vient. Dont on parle pas là, c'est la question de l'argent, parce que moi quand j'étais petite, pour le coup, j'avais aucune perception de est-ce que ça serait important pour moi un jour de gagner de l'argent ou pas, qu'est-ce que ça voudra dire,
combien
ça coûtera, parce que avant ça coûtait pas du tout le même prix de se loger, donc le rapport à l'espace il était aussi complètement différent, enfin nos parents n'ont pas du tout eu les problématiques qu'on a à nous. Et du coup, tu vois, pour cette histoire d'atelier, tu te l'imaginais à une époque où en fait c'était peut-être encore possible. Enfin, tu vois, si t'avais les revenus, les moyens, l'activité que t'as aujourd'hui, mais avec le pouvoir d'achat de quand t'étais enfant, il y a plein de choses qui seraient possibles.
Tu pourrais payer en billes, en bonbons. Mais là-dessus, justement, tu mets le point sur les parents. Pour moi, ça rentre aussi dans cette réflexion de tu te vois où dans 10 ans. En fait, est-ce que vous avez en tête aussi le parcours de vos parents qui volontairement ou involontairement influe un petit peu sur votre vision de là où vous en êtes aujourd'hui?
Moi, je sais qu'il y a énormément. En particulier par rapport au rapport à la famille, la maison et les enfants. 30 ans, qui arrive très proche pour moi comme pour vous.
Attends, j'ai encore un an, calme-toi.
Ouais, on a encore un an.
Ça va.
Mais 30 ans, c'est l'âge des premiers enfants chez mes parents. Et... même si c'est pas un projet qui me rebute, je me suis toujours vu papa un jour, je sens que là, actuellement, dans ma tête, c'est pas du tout le moment, c'est pas du tout je suis pas du tout à l'endroit où j'ai envie d'être pour
avoir des enfants.
Pas au niveau professionnel, pas au niveau confortabilité, mais au niveau de j'ai pas fait les trucs que je veux faire, les voyages que je veux faire, j'ai pas pris ces libertés-là encore. Et ouais, du coup, est-ce que je suis en retard? C'est surtout cette question-là qui me dit, mais il est passé où tout ce temps?
Vous avez un peu la même chose?
Moi, je suis plus âgée que vous, donc je vais le dire pour tout le monde, j'assume, mais moi, je suis de l'autre côté. Je suis d'autre côté de la barre des 30 ans, j'ai 32 ans. Ça commence à me stresser. Honnêtement, à 30 ans, 31 ans, j'étais bien, quoi. J'étais tranquille. Je voulais juste déménager, j'ai déménagé, parce que je voulais faire vivre dans un endroit plus grand, où j'ai plus de possibilités, ou en tout cas, bah, effectivement, comme tu le disais par rapport à ton histoire d'atelier, moi, c'est important pour moi de développer mon activité d'indépendante. Et en fait, y consacrer un lieu, c'est pas juste psychologique, mais effectivement, le fait d'avoir un lieu dédié à ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc je pense que dans la mesure où ce lieu est toujours chez moi, on n'est pas encore dans ce que j'imagine d'avoir des bureaux, ou en tout cas un bureau, enfin de sortir de chez soi.
Ça reste un lieu à soi, tu vois, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf là-dessus. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une pièce dans laquelle, en fait, tu peux poser tes idées, que ce soit des idées pro, des idées créatives, d'avoir un endroit où, ok, ça, c'est dans cet endroit, et après qu'il soit chez toi, qu'il soit dans une boîte, chez un tiers, qu'il soit dans un espace de coworking, en fait, on s'en fout.
En fait, c'est ça change quand même un peu quelque chose sur côté investissement quand même, tu vois.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, le jour où je me suis acheté un ordinateur pour mon travail, parce que jusque-là, je travaillais avec mon ordinateur d'étudiant, ce qui est fou, tu vois. Et puis j'ai dû partir télétravailler en voyage, ce qui est, je déconseille fortement. Enfin, là, c'était vraiment inter-rail, road trip, sac à dos, ordinateur. Et je me suis dit, si mon ordi me lâche. Non, mais c'était du vrai travail. Par contre, j'ai vraiment bossé et c'était très difficile. Personne n'a envie de télétravailler dans la gare de Venise. Enfin, vraiment personne. Personne n'a envie de devoir trouver une prise dans un palais à Séville, quoi. Enfin, personne n'a envie de faire ça. Et pourtant, je me suis retrouvée à le faire. Et ça permettait de financer le voyage. Donc, dans cette mesure-là, c'était trop cool. Mais bon, il y a quand même les limites du digital nomadisme. Je suis un peu arrivée au bout. Mais tout ça pour dire que pour éviter justement de me retrouver sans ordi ou avec un ordi qui me lâche, sachant qu'il était quand même assez vieux, en plein voyage, j'en ai acheté un. Et en fait, psychologiquement, le fait d'investir vraiment de l'argent, donc par rapport, c'était vraiment une soustraction de ce que je gagne. Voilà, j'enlève une partie de ce que je gagne et je le mets là-dedans. Pas mes parents me filent des sous pour Noël ou on fait un cadeau commun pour mon anniversaire. Enfin, on est vraiment dans un truc où c'est moi qui décide de prendre de l'argent sur mon chiffre d'affaires pour le mettre dans un appareil qui me sert à travailler. Ça a l'air de rien du tout comme ça, en disant ça comme ça.
Bah non, bah y a des outils, bah, mais en fait, ça a complètement,
ça m'a complètement fait prendre conscience que, ok, c'est une activité sérieuse. Et en fait, même presque plus que d'avoir... J'avais déjà déménagé à ce moment-là, et même presque plus que d'avoir ce lieu à moi, parce que cet objet, il n'y a que moi qui l'utilise pour le coup. Alors que ce lieu à moi, chez moi, je le partage avec mon mec, quoi. Donc,
et un chien.
Et un chien,
précisément. Pardon, mais mon collègue. Ça aussi, tu vois, dans les investissements, dans les investissements, au sens temps, énergie et tout ça, enfin, t'as quand même pris un
moi,
chien.
Moi, j'ai l'impression, pas d'être mère, mais j'ai l'impression d'avoir pris conscience et puis pris une énorme responsabilité quand même, quoi. Là, à l'heure où on se parle, il est à la maison. Et je pense à lui à chaque instant, quoi. Et vraiment, de toute ma vie avant, ça m'est jamais arrivé. Enfin, penser à ton mec, ta nana et tout, c'est différent.
Les mecs, ils savent se faire à manger.
c'est vrai.
T'attends dans le noir, assis sur le canapé.
Non, parce qu'il y avait à manger avant de partir. Mais. C'est donc, c'est quelque chose de complètement nouveau. Puis même, en fait, c'est aussi par rapport à l'amour que j'ai en moi. Je sais que j'en ai parce que j'adore plein de gens. Je les kiffe, je les entoure d'amour, je leur dis que je les aime et tout. Je leur fais des câlins, des bisous. Donc je sais que j'ai ça en moi, mais me dire qu'il y en a encore plus que ce que je pensais, c'est vraiment... c'est comme si j'avais, je sais pas, un meilleur ami, enfin un nouveau meilleur ami dans ma vie, quoi. Parce que j'avais pas du tout... anticiper.
Prendre un animal de compagnie, ça débloque un truc.
Ouais. En plus, c'est le premier. J'en avais jamais eu avant aussi. Donc, mais ça, par exemple, voilà, prendre un chien, quand je m'imaginais ça, si je repense à quand j'avais 25 ans, et c'était pas. Maintenant, ça commence à faire un petit moment, puis en fait, on change hyper vite à cet âge-là, je trouve. Donc, mes envies, elles évoluent vraiment très rapidement. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, mais entre il y a 6 mois et maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Et bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai vraiment la sensation que. J'imaginais que ça allait être horrible de vivre avec mon mec dans une relation hétéro, hétéronormée aussi, puisque voilà, me prendre la tête avec mon mec sur des histoires de tâches ménagères et avoir un chien, c'était le pire scénario qui puisse se passer, quoi. Et finalement, je suis pas exactement là-dedans.
C'est pas un golden retriever. À partir de là, déjà, ça va mieux.
Mon chien est très mignon et mon mec fait pas mal de tâches ménagères, il en fait même beaucoup, presque à 50%. Si tu m'écoutes.
Il est très mignon aussi, voilà, Bastien.
Mais voilà, tout va bien. En fait, j'aime cette vie, quoi. J'aime, j'aime cet engagement et j'aime ces contraintes aussi. Donc,
Alors que toi, Emeline, c'est plutôt le voyage qui s'est manifesté là en plus sur la dernière année, en vrai, le fait que tu aies fait des voyages solo.
Alors en fait, le truc, c'est que dans ma tête, et c'est pour ça aussi j'ai arrêté de faire des plans sur 10 ans, c'est que l'idée, c'était vraiment, et j'avais, c'était dans ma tête depuis le lycée, c'est d'être finir mes études, et une fois fini mes études, je partais pendant, un an, enfin, et advienne que pourra, mais au moins avoir cette expérience de partir en voyage, de voir autre chose, et après de revenir en France, et de m'installer, et de commencer un boulot. En plus, j'avais vraiment ce truc de, je voulais être à fond dans ma... Je sais pas pourquoi, j'avais ce truc de carriériste, je voulais avoir une carrière, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, je veux juste gagner de l'argent, et après faire mes à côté, enfin, mais encore une fois, comme tu dis, ça a totalement changé dans l'idée. Et le Covid est arrivé et assez tristement mais assez normalement aussi, j'ai dû faire comme tout le monde et commencer à travailler en fait au lieu de voyager. Et du coup ça m'a un peu décalé tous mes projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ressens cette envie de partir parce que je n'ai pas pu le faire avant et je me retrouve un peu entre deux, j'ai 26 ans et si on regarde dans les faits je n'ai aucune stabilité. Que ça soit dans le boulot, bon après en étant freelance j'ai quand même du travail qui sort mais c'est pas un CDI, j'ai pas d'appart, enfin je suis un peu je suis nomade en fait, mais nomade dans ma vie en règle générale, mais ça me convient aussi, c'est là où j'ai envie d'être aujourd'hui, j'ai aucune responsabilité, j'ai pas d'animaux de compagnie, j'ai pas d'enfants, j'ai rien, j'ai
putain,
pas
que
de...
26 ans en fait,
et j'ai que 26 ans.
Moi j'avais pas envie de ça, 26 ans, vraiment pas du tout.
Je pense le fait qu'on se soit, enfin que toute ta toute ta vie précédente, dans le sens où là, on n'est pas si âgé que ça. Mais ouais, un peu, tu vois, quand t'es enfant et ado, effectivement, la vingtaine, c'est l'âge adulte. Ça y est, t'as ta majorité, tu finis tes études, tu commences à travailler, donc tu vois ça comme un truc lointain, vieux, stable, enfin t'as un peu un petit schéma qui se crée aussi, qui est véhiculé par nos parents, par bah, aussi des codes de société, hein, très simplement, tu parles de la maison, des enfants, tu vois, les petites cases à cocher finalement, mais la réalité c'est qu'avec le contexte actuel et tous les changements qu'on a, en plus ça change très très vite. Bah, le fait d'être avoir 26 ans et vivre encore chez ses parents, par exemple, c'est devenu banal.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a aussi ça, c'est que la réalité actuelle, elle n'est pas encore montrée comme ce qu'elle est, à savoir présente et beaucoup plus démocratisée que ce qu'on a encore en tête, qui est un idéal tout normé, tout joli, mais qui correspond à une autre époque, à un autre contexte économique, à un autre contexte politique. Moi, j'avoue que, et je vais vous poser la question d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a empêché ces derniers temps de me projeter aussi sur du moyen et sur du long terme. J'étais beaucoup sur du court terme, un peu tout le temps, parce que j'ai l'impression que avec toutes ces actualités hyper angoissantes, anxiogènes, avec toutes ces choses qui vont pas, avec aussi mes prises de conscience personnelles sur les sujets parce que je m'y intéresse, je me demande où est-ce qu'on va, et en fait il y a des moments où je vais me regarder le nombril et ça va, et je suis assez optimiste parce que j'ai des gens que j'aime autour de moi, parce que ce que je fais ça me plaît et c'est cool, et là-dessus je peux arriver à me fixer des objectifs, mais dès que je dézoome un petit peu, c'est la panique à bord et je me dis mais en fait je ne sais même pas où est-ce que nous au sens collectif on va, moi ça va plutôt droit dans le mur quand même. Et c'est pas bien de dire ça parce qu'il justement il faut faire changer les choses, mais il y a ce truc d'avoir l'impression d'être figé parce que ben, c'est trop et c'est flippant, et du coup le moindre plan, est-ce qu'il va tenir, tu vois. J'adorerais dans l'idée un jour vivre ce qui est très paradoxal au bord de l'océan, mais en même temps j'adore les grandes villes voilà, pour arriver à jongler. Et en même temps, les villes qui sont au bord de l'océan, elles seront peut-être sous l'eau dans 10 ans. Donc j'exagère quand je dis dans 10 ans, mais ça va dépendre des mesures qui vont être prises en fait. Et ça dépend de où dans le monde. Une de mes villes préférées, ça reste Amsterdam, elle est construite sous le niveau de la mer. Donc à partir de là, c'est une des premières qui va être engloutie facilement, si ça continue comme ça en tout cas. Du coup, ça paralyse aussi un petit peu, tu vois, il y a cette peur de se dire si je me projette trop là-dedans, est-ce que ce sera tenable finalement sur la durée, est-ce que c'est... Et j'ai pas envie de me projeter sur des choses justement que je vais devoir changer 2 mois après. Il y a un peu ce côté-là. Je sais pas pour vous en termes de rapport aussi à l'actualité, à la réalité aussi du monde dans lequel on vit, comment vous vous sentez, est-ce que ça impacte votre vision ou est-ce que ça reste plus un contexte général, mais c'est pas la raison première qui vous empêche ou vous permet de vous projeter.
Non, après moi j'ai tendance à vite stresser, à vite être anxieuse, donc je fais un peu la technique de l'autruche où je me cache parfois, pas tout le temps quand même, mais parfois. Et je me dis aussi, enfin je sais pas si c'est une bonne façon de penser, mais qu'il n'y a jamais eu de bon moment dans l'histoire de l'être humain pour faire des projets. Enfin, il se passe toujours un truc. On a nos grands-parents qui ont vécu dans un contexte de guerre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont quand même pu créer des projets, ils ont quand même pu fonder une famille, ils ont quand même pu avancer dans leur vie. J'ai l'impression, en fait, c'est horrible à penser, mais il y aura toujours quelque chose qui va nous empêcher de toute façon d'aller là où on veut ou comme on veut. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui va se passer dans le monde, que ça soit à cause de l'être humain ou que ça soit la nature qui... toujours à cause de l'être humain d'ailleurs pour la nature, mais voilà. En tout cas, que c'est un peu moins dans nos mains. Et du coup, j'ai plus tendance, pas forcément à laisser couler, mais à me dire je sais pas où est-ce que ça va me mener, je sais pas si peut-être je vais faire d'autres choix, mais à moins me prendre la tête en tout cas sur ça. C'est de vraiment aller en mode, peut-être pas forcément jour le jour, mais de me dire ok, peut-être pas réfléchir sur 10 ans, mais dans 5 ans, y a des choses qui peuvent changer en 5 ans, mais potentiellement je peux le faire. Et au pire des cas, si ça se passe pas comme j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire? Et de relativiser plus. Tu vois, par exemple, ok d'accord, je vais aller habiter proche de la mer, Et si je vois que vraiment ça commence à craindre du boudin avec l'eau qui monte, bah je déménage. Je dis pas que c'est facile de déménager, mais...
Non, et en fait, ça a des mouvements de population aussi. Et là, pour le coup, subi est moins fun. Parce que tu vois, si je vois le côté négatif, ça peut être ça aussi. Mais ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça rejoint, tu vois, typiquement pour moi, les réflexions sur avoir des enfants, ne pas en avoir. Je me posais pas la question avant de si j'en voulais ou si j'en voulais pas. Je savais que j'en voulais, voilà, et que ça se présenterait aussi en fonction de la personne avec qui... je décide ou non de, d'avoir des enfants et que c'est vraiment dépendant de cette personne et que si j'ai la chance de la rencontrer c'est cool et si ça vient pas, bah, c'est pas la mort non plus. Mais en fait là ces dernières années cette idée là qui me met enfin me fait plaisir en fait et à laquelle je suis assez attachée, je la remets en question beaucoup parce que je me pose la question pour mes enfants, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de les foutre là-dedans. Et c'est compliqué parce que tu vois là-dessus sur se projeter dans 10 ans, ben ça rentre en jeu. En fait je me retrouve avec plein de scénarios alors que ce qui est bien hein, ça te permet d'avoir des choix et en même temps c'est trop, il y a trop de scénarios et je sais pas lesquels j'ai envie de privilégier ou quelle voie prendre.
Moi je rejoins un petit peu sur ça. Je pense que sur ma vie de tous les jours, finalement les grands sujets du monde m'impacte suffisamment peu, en tout cas je les mets suffisamment de côté. Je pense que ça participe un petit peu à la dépression générale de notre génération et que du coup on se tire plus un petit peu vers le bas parce qu'on aime bien rappeler tous les trucs qui vont pas parce qu'on a envie de tout changer et qu'on n'a pas la force de se lancer dans tous les combats. Mais ouais, ça va plutôt être sur les rares grandes décisions. Je pense en particulier effectivement aux enfants, je pense qu'on va beaucoup y retourner, mais pour l'instant la discussion on l'a pas eu avec mon partenaire, mais je sais que au moment où on l'aura cette décision, cette discussion, quand on sera dans cet esprit là, effectivement là les sujets environnementaux, les sujets à quoi va ressembler le monde dans 50 ans, là la discussion elle portera dessus et effectivement il y a une possibilité non nulle pour que ce projet, l'un comme l'autre je pense, on a toujours voulu sur le principe, peut-être qu'on décidera d'y renoncer parce que pour le coup à quoi ressemblera le monde dans 50 ans c'est un vrai sujet.
Puis même juste tu vois où est-ce que tu habiteras, la question de la maison, l'accès au logement.
Moi je reviens à l'argent, mais en fait ce qui est... enfin pour mon avis à moi sur la question c'est je trouve ça un peu triste. Mais en même temps, je crois pas qu'il y ait vraiment d'autres générations qui aient pu se permettre de faire autrement, qui aient pu être impactées différemment par l'actualité et par l'état du monde. C'est juste que nous, on est extrêmement au courant. Je pense, pour le coup, vraiment en tant que femme, avoir un enfant il y a 30 ans, c'était pas du tout la même chose qu'avoir un enfant aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup plus de liberté. Déjà, s'il y a autant de gens qui se posent la question, c'est pas juste parce que le monde va mal et que... Voilà, c'est aussi parce qu'on peut se la poser.
On peut
aujourd'hui vivre de plein de manières différentes. Tous les modèles familiaux sont quand même réinventés. En tout cas, c'est le cas dans l'environnement dans lequel on vit, nous. Et en fait, ce que je me dis juste, c'est dommage quand même, malgré tout, même en sachant ça, de faire des choix par rapport aux risques et par rapport à nos peurs et pas par rapport à nos envies et nos rêves. C'est très utopiste ce que je raconte parce que moi personnellement je sais que dans mon esprit les deux choses s'affrontent en permanence et mon rêve n'est pas du tout de fonder une famille, c'est une possibilité mais c'est pas du tout un rêve, donc si ça ne se fait pas ou si je décide de pas aller là-bas, je dis pas que c'est pas grave parce que j'aurais quand même l'impression de passer à côté de quelque chose, mais il peut y avoir de très bonnes justifications à ne pas y aller qui en fait sont suffisantes pour accepter cette situation. Pour moi, ça serait plus un bonus de vie à côté duquel je pourrais passer. Mais il y a aussi une grande part d'égoïsme là-dedans. C'est peut-être pas très normal, mais en tout cas, je sais que quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup reproché à mes parents de m'avoir mise au monde, ce qui est un peu étrange, mais juste parce que je trouvais ça vraiment bizarre qu'ils se soient dit... qu'ils aient décidé de ça, comme ça, à la place de la personne qui est là, finalement. Et surtout qu'ils n'aient peut-être pas réuni toutes les conditions pour que tout soit parfait. Mais en fait, la question, c'est aussi... est-ce qu'aujourd'hui, alors que dans le passé, on ne se posait pas toutes ces questions, on ne se demandait pas si c'était bien ou pas d'avoir un enfant, ou est-ce qu'on avait le droit ou pas le droit. Enfin, juste, ça arrivait, et voilà.
Mais ouais, mais tu vois, du coup, avoir des questions en plus qui se rajoutent, je trouve que c'est assez propre à notre génération, pour le coup. C'est la première fois qu'on... En fait, on nous impose de nous poser ces questions.
Moi, je pense que c'était déjà présent depuis toujours. À partir du moment où j'ai posé cette question à mes parents, cette question est restée aussi pour moi enfin je suis pas vraiment passée à autre chose. J'ai compris pourquoi eux ils étaient allés au bout de leur rêve, parce que pour le coup c'était un rêve je pense pour l'un comme pour l'autre, mais en fait c'est juste que je partage tellement pas ça depuis toujours. Je me suis jamais visualisée, enfin on en a déjà parlé, mais moi mon délire, la manière dont je dis bien délire, hein, la façon dont Barbara, je me voyais plus tard, le type de Barbara, c'était vraiment la Marion qui fait le tour du monde, qui va explorer des trucs, rencontrer des gens, apprendre toutes les langues de la planète. Enfin, au final, c'est ce que je fais une partie de mon temps dans l'année parce que je voyage beaucoup. Et en plus, d'une manière assez particulière, un peu en mode voyage confort, tout compris Club Med, mais plutôt ambiance sac à dos et donc du coup ordinateur portable, visiblement.
Assez bien.
Mais bon, voilà, le freelance pour moi, c'est une aventure aussi. Enfin, il y a un côté vraiment aventure. Je vis avec quelqu'un aussi qui est vachement dans un truc très. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure, on teste des nouveaux trucs, on s'en sort des nouveaux projets, on fait plein de choses. Enfin, toi, tu fais partie de mes amis très proches aussi, et étrangement, toi aussi, t'as ce côté, tu vois, tu fourmilles tout le temps d'idées, de projets, etc. En fait, quasiment tous les gens que je fréquente sont dans cette dynamique, donc c'est pas un hasard. Mais du coup, c'est une aventure, et en même temps, je suis hyper attachée à mon chez-moi, mon environnement. Je vis toujours dans le même quartier, je suis retournée vivre dans l'immeuble dans lequel je suis née. C'est quand même un peu particulier, il faut le faire. Et je me dis, tu vois, voilà, pareil, si j'ai un enfant dans ce cadre-là, dans mon immeuble dans lequel je suis née, ça veut dire aussi quelque chose, et quelque part, la boucle est bouclée. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus un truc qui est trop personnel. Enfin, je suis pas très à l'aise avec ce côté responsabilité vis-à-vis de la vie d'autrui. Mais ça vit pas, ça vit. Enfin, mon chien, il est, ouais. Dans 6 ans, ça me fait de la peine de le dire, mais dans 6 ou 8 ans maximum, il est plus là. Et puis bon, enfin, j'ai décidé de le prendre en charge complètement. Un enfant, c'est vraiment très 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 différent. Enfin, c'est ça n'a rien à voir en fait. Et ça, je sais pas si je suis prête à prendre cette responsabilité en fait. Et j'ai 32 ans et je pense que, enfin, il y a un moment où, de toute façon, ça deviendra vraiment compliqué de vivre une grossesse. J'ai pas envie non plus. Enfin, tu vois, si je me retrouve à devoir passer par un parcours PMA par exemple, je sais que j'aurais pas du tout la foi de me lancer là-dedans. Parce que j'y tiens pas à ce point, en fait, à avoir un enfant. Donc, mais mon conjoint, lui, ça peut être différent. Donc, il y a aussi ça qui... Donc, en fait, l'égoïsme, il y a moi, mes envies, mes rêves. Mais encore une fois, mes rêves, mes envies sont en dehors du cadre de la Marion, mère de famille. Et du coup, je sais pas trop dans quel... Enfin, quand je m'imagine dans 10 ans, ça existe, du coup, cette famille. Mais comme tu le disais, quand tu parlais de ta projection de vie avec ton atelier et des enfants qui sont là, enfin, tu vois... C'est presque un... C'est présent, mais c'est pas au cœur, en tout cas, de mon... Voilà, même si je pense que je serais une très bonne maman. J'ai pas de doute là-dessus.
Non, mais là-dessus, ça me fait penser juste à... Enfin, deux petits points. Tu vois, pour juste clore un peu la parenthèse sur la parentalité, moi, j'ai des petits soucis de santé qui font qu'on m'a déjà parlé il y a 3 ans maintenant... d'aller faire congeler mes ovocytes. Quand on m'a dit ça, moi j'ai regardé, j'ai fait « Comment ça maintenant ? Enfin, c'est trop tôt, je ne sais même pas si j'ai envie de le faire ou pas. » On m'a dit « Non mais en fait, il faut le faire maintenant au cas où. » Je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, je savais pas. Et je trouve que ça, tu vois, quand on parle des questions qu'on nous impose un peu de se poser, le fait que moi ce soit le corps médical qui me pose cette option... à laquelle j'avais même pas pensé, ça m'a fait du coup réfléchir au sujet et ça m'a fait encore plus remettre en question un petit peu la vision que je pouvais avoir. Et le fait est que j'ai pris la décision de pas le faire parce que je voyais pas l'intérêt à ce moment-là. Mais je trouve que peu importe les parcours, on a un petit peu aussi de plus en plus ça, le fait qu'il y ait des standards, qu'on puisse te les rappeler ou juste qu'on veuille te simplifier la vie aussi, ça part d'une très bonne intention. Il y a tellement de personnes qui, encore une fois, ont du mal à avoir des enfants. Alors que pour elles, eux, c'est quelque chose de profond et d'ancré. Tu vois, nous, c'est optionnel et c'est aussi une vision. Et tu parlais d'un autre point, tu utilises beaucoup le mot rêve.
Mais je revendique un peu, je dois dire. Parce que quand on se dit comment tu te vois dans 10 ans, je trouve ça plus sympa dans l'idée de partir de ses rêves que de partir de ses craintes.
Je pense que c'est tes aspirations en fait.
Oui.
Oui, on l'a abordé plus par les craintes parce que j'avoue que le fait de pas arriver à se projeter, pour moi, c'est lié à ça plus que. Parce qu'en fait, si je pars juste sur une vision idéale, t'inquiète, c'est bon, le plan il est fait. Mais ça, j'en ai parlé récemment avec mon père qui. Lui m'a posé cette question que je trouve assez pertinente et j'ai envie de vous poser aussi, qui était c'est quoi un peu ce qui te tient à cœur dans tes aspirations à venir, en fait? Lui, par exemple, il m'a dit très clairement, à ton âge, je voulais avoir une maison et mes gosses, et en fait, il m'avait déjà eu. Pour lui, c'était évident qu'il avait envie de fonder une famille, d'avoir une maison pour accueillir cette famille. Et c'était dans son plan, c'était logique, c'était ça qui passait en priorité. Et en fait, quand il m'a posé la question, je me suis dit, ah, c'est marrant, moi, c'est mon taf. Mais mon taf au sens large, tu vois, ça comprend le podcast, ça comprend ce que je fais. En fait, le fait de faire, pour moi, c'est ça qui passe en prio dans mes réflexions. Vous, c'est quoi un petit peu?
Bah, en fait, je me pose une colle. Parce que j'ai des micro-rêves en soi. Mais j'ai plus l'impression aujourd'hui, et encore une fois par rapport à il y a des années, où je suis plus au jour le jour. Où j'ai juste envie, un peu tous les jours, ou toutes les semaines, de faire des choses au quotidien qui vont me rendre heureuse et qui vont m'emmener vers là où j'ai envie d'aller potentiellement. Mais tu vois, j'ai plus de big objectif. Alors qu'avant, j'avais ce truc de, bah, en top priorité. Bon, alors, effectivement, maison, enfant, on peut parler des voyages. Enfin, y a plein de trucs, écrire un livre, être publié. Enfin, il y a tout un tas de petites choses. Mais j'ai plus de grosses aspirations. J'ai vraiment envie de... Et peut-être aussi parce
que... De profiter plus, quoi.
Ouais, et je sais pas du coup si c'est entre le rêve, parce que justement j'ai envie de faire tellement de choses et j'ai l'impression de... Enfin, j'ai envie de vivre finalement un rêve tous les jours. Enfin, c'est très... un peu exagéré, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et en même temps, j'ai ces craintes de me dire, mais de toute façon, c'est déjà pas ce qui va se passer dans un mois, donc peut-être là où je te rejoins aussi également, Chloé, c'est que j'ai pas envie de me dire, bah voilà, je me dis à 30 ans, et puis c'est angoissant de se dire, vas-y, à 30 ans, j'aurai un enfant, parce qu'après, effectivement, en tant que femme, ça devient compliqué, je suis en mode, on verra, advienne que pourra, et plus au quotidien. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à répondre à cette question, peut-être.
C'est marrant que t'appelles ça des micro-rêves.
Oui, en soi, oui, c'est des rêves, mais...
Bah ouais, en fait, oui. C'est juste que t'en as plein, et ils sont plus faciles à mettre en place. Enfin, pour préparer cet épisode... J'ai fait un petit exercice très scolaire. J'ai pris en fait mon carnet et j'ai noté tous les trucs, tous mes rêves un peu, tous les trucs que j'ai envie de faire. C'est que des trucs accessibles. C'est que des choses, en vrai, si je me bouge d'ici 2 ans, c'est fait. Et c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait plaisir, tu vois, c'est là où je te rejoins sur la notion. Et pour moi, c'est pas des micro-rêves, c'est juste, en fait, des rêves, c'est pas forcément le truc... incroyable qui sort de l'ordinaire
c'est
en fait.
C'est le terme rêve en fait qui me perturbe, je pense. Ouais. Enfin, je vois que ça quelque chose, comme quelque chose
c'est plus les aspirations en fait, ouais.
De grand, de merveilleux, alors que en soi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être le terme rêve qui me.
Moi je crois que c'est notre époque qui l'a un peu. Qui lui a fait perdre de son droit d'exister presque.
Mais... Oui et non, en fait,
en fait, tu vois, les chansons des années 60, des années 70, même encore un peu 80, elle a dans tous les sens des mots rêves, et je trouve qu'aujourd'hui, ben...
Ouais, mais en même temps, ton quotidien, il était tellement plus facilement normé, bridé,
je pense que
par certains aspects, pas par tous, hein.
Il était plus facilement concevable, mais au sens, c'était plus facile d'imaginer à quoi ça allait ressembler, parce que c'était beaucoup plus...
Mais aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où on peut... Enfin, des choses nous sont accessibles que, par exemple, à l'époque de nos parents, ça ne l'était pas. Donc, peut-être que nos parents, ils ont rêvé de choses en se disant, mais de toute façon, ça sera jamais possible. Que nous, on est plus dans une génération où, si c'est possible, donc on peut le réaliser. Tu vois, tu parlais de digital nomade tout à l'heure. À l'époque de nos parents, jamais ils auraient pu faire ça. De prendre un sac à dos, de partir là-bas et de dire, bon, bah, je sais pas, moi, en Amérique du Sud, on parlait tout à l'heure l'Amérique du Sud, et de dire, bah, je prends juste mon ordinateur et depuis l'Amérique du Sud, je vais travailler avec des gens en France et je vais pouvoir voyager en même temps. Enfin, ça. Peut-être que certains ont réussi à le faire à l'époque, mais c'était beaucoup moins accessible que ça l'est aujourd'hui.
C'était moins démocratisé. Après, il y a toujours la question quand même de l'argent, dans le sens où là, nous, on parle depuis quand même des statuts privilégiés d'un petit, microcosme qui nous est propre. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est même pas une question. Mais c'est vrai que, par contre, t'en parles à des gens de notre âge qui ont déjà une maison des gosses. En fait, tu leur dis, ton rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Ils savent qu'ils peuvent le faire. En fait, t'as la possibilité... j'ai presque envie de dire technique plus que matériel, parce que dans matériel, il y a la dimension d'argent qui rentre, et donc ça, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais tu sais que techniquement, c'est faisable. Donc, c'est des rêves plus atteignables, quoi.
Moi, je pense que je vais moins me retrouver, en tout cas, dans la conception de rêve, juste parce que c'est pas de cette manière-là que je fonctionne, je pense. C'est vrai que je me rends compte, maintenant, en m'en parlant, en le mettant sur la table, je fonctionne beaucoup par crainte. Et du coup, en fait, mes buts, c'est plutôt... d'être dans un endroit stabilité. D'éviter les obstacles. J'ai pas envie d'être dans un endroit où je suis. Du coup, c'est par la crainte de ça que. Bah, en fait, voilà, j'ai un rêve de stabilité, mais en fait, juste parce que j'ai une crainte de pas savoir où je suis. J'ai une crainte d'être seul, donc en fait, j'ai envie d'être entouré avec un ou une partenaire, avec des amis et autres comme ça. Et du coup, je fonctionne. Et du coup, j'ai du mal à identifier des rêves. Et j'ai plus. Je sais où est-ce que je veux pas être. Et du coup, j'ai plus tendance à me construire comme ça. C'est pas forcément la manière la plus saine de faire. Hein. J'ai des aspirations, j'ai des choses que je me laisse peut-être pas.
Mais c'est peut-être le mot aspiration dans ce cas qu'il faut utiliser, tu vois. Parce que le fait d'avoir des craintes et de faire des choses par. Alors, j'ai pas envie de dire par défaut parce que c'est pas ça. Mais en tout cas, pour. Comme tu dis, ne pas aller là où t'as pas envie d'aller. En fait, c'est déjà énorme de savoir où tu veux pas aller. Et c'est pas tout le monde qui en est capable. Il y a beaucoup de gens, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, mais dans l'idée. Mais derrière, s'ils tombent sur un endroit où ils voulaient pas aller, ils sont pas capables de s'en rendre compte tout de suite. Donc c'est déjà une force aussi d'être capable d'éviter ça. Après, je trouve que ça s'équilibre pas mal avec tes aspirations ou rêves. On peut appeler ça, encore une fois, comme l'un ou l'autre, de se dire...
En fait, le rêve, c'est quelque chose qui, indirectement, en tout cas sous-entendu... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu peux atteindre, encore une fois. Enfin, c'est un peu, genre, rêve grand. Enfin, c'est un peu cette genre signification vision, inaccessible, etc. Mmh. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait faire la distinction entre inspiration... Tout le monde n'a pas des rêves, en fait. C'est ça que je me dis quand je nous écoute parler.
Ouais.
Enfin, moi, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir des rêves. J'ai envie d'aller à certains endroits dans ma vie. Mais je peux pas dire que ce soit des rêves. Enfin... Mmh. Je rêve pas, enfin je sais pas si c'est...
Bah moi derrière l'idée des rêves, je pense à un idéal, pour ce qui me concerne en tout cas. Et mon idéal, on en a déjà parlé Chloé, mais je pense que c'est quelque chose vraiment de très transverse, qui est en fait un peu la condition de mon bien-être à court terme et de mon bonheur sur un plus long terme, qui est de me sentir libre de faire des choix. Moi, ce qui me fait le plus peur, je parlais tout à l'heure de la conception, l'histoire de la maison, du labrador et du mari et des enfants. Du coup, qui vont avec le labrador
et la clôture blanche. Et la super bagnole, ouais, c'est ça.
Mais ça, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours angoissée, qui m'angoisse toujours, cette vision-là. Mais parce que je suis quelqu'un de très responsable, malgré le côté besoin d'être libre, faire des trucs, partir à l'aventure, etc. Et je sais que ce sens de la responsabilité prendrait le dessus sur mon sentiment de liberté et d'indépendance au quotidien. Et en fait, j'ai pas envie d'être responsable de trop de choses et d'être dans quelque chose de... et de trop de personnes, en l'occurrence. Et d'être dans quelque chose de trop cadré qui m'empêche de remettre en question les choses et de changer, d'évoluer, de manifester mon envie d'autres choses que ce que je suis en train de vivre. Et en fait, tout seul, c'est très simple, ça. Même si c'est très courageux de le faire, il faut quand même le dire. À deux, c'est très compliqué et c'est source de rupture. C'est pas le sujet du coup d'aujourd'hui. Non. Mais voilà, il faut se coordonner. Et en fait, on le sait très bien qu'on n'est jamais exactement à un instant T au même point que son partenaire. Donc, enfin, de fait, il y a la chance et l'amour qui aident à faire en sorte que tout ça fonctionne. Mais bon, il n'y a pas de stabilité. Il y a une stabilité des sentiments qui perdurent même parfois aux ruptures. Mais il n'y a pas de stabilité dans les envies, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Alors à deux, c'est encore plus compliqué. Et alors imaginez quand on rajoute en plus des personnes dont on est responsable, dont on souhaite le bonheur, qu'on a mis au monde dans le contexte dans lequel on est, pour lesquels on veut le meilleur possible. En fait, juste, on est obligé, je pense, et c'est sain et c'est plutôt bien de le faire, mais je ne sais pas si moi je suis prête à le faire ou si c'est vraiment mon envie profonde, mais de mettre en suspense ou de mettre entre parenthèses ou de mettre en stop ou voire même d'annuler ou de faire le deuil de certaines envies, si on parle pas de rêve, mais vraiment certaines envies. Et ça, c'est quelque chose qui, ouais, pour moi est un frein au-delà des questions de vont-ils être heureux, parce que ça, évidemment, moi, si je commence à penser à ça, c'est oula. Non, mais et tous hein, c'est-à-dire le labrador, le mari, les enfants, hein, et presque la maison.
Mais là-dessus, je pense qu'il y a aussi, pour en revenir vite fait à la notion de rêve en tant que tel, une vision plus globale des choses, en fait. Alors là, je parle d'un point de vue de personnes qui ont des moyens. On en revient à l'argent, mais je pense que c'est difficile d'aborder ce sujet sans prendre ça en considération, parce que là, on parle encore une fois d'un point de vue assez privilégié. Tout le monde ne peut pas se reconnaître là-dedans, et il faut en avoir conscience aussi. Moi, j'ai toujours eu en tête que, et on me l'a beaucoup répété aussi dans ma famille, ce qui a aidé, t'arriveras toujours à tes fins. Mais en fait, même si t'as pas pris le chemin que t'imaginais, même si ça prend pas la forme que t'imaginais, typiquement, là, Chloé Ado voulait être journaliste. Je ne suis pas journaliste aujourd'hui. Par contre, je fais tellement mieux et en même temps je fais une forme de journalisme aussi à ma façon. Et c'était pas du tout parti pour à la base, parce que j'ai raté les concours, parce qu'on m'a dit que de toute façon j'avais pas le niveau, enfin je n'avais pas bossé non plus, je me donnais pas non plus les moyens, donc je pense que c'est pas valable pour tout le monde, t'arrives pas forcément à atteindre tes rêves, voilà, mais dans tous les cas, peu importe comment ça se passe, il y a moyen que j'arrive à un truc, au final quand je vais regarder, je vais faire « Ah, c'est pas si long ou c'est pas si mal », tu vois. Sans que ça colle, ce sera jamais la copie conforme d'un rêve, parce qu'un rêve, comme tu dis, c'est une idéalisation. Mais ce que tu peux retrouver dedans, et c'est là où on en revient à ce qu'on s'était dit, Marion, c'est sur tes valeurs, en fait. Un truc que je trouve on ne nous rappelle pas assez, qui peut aider aussi beaucoup d'entre vous, là je parle aux auditeurices, c'est d'identifier un peu c'est quoi tes grandes valeurs dans la vie. Et elles vont changer hein, au fil du temps. Il y en a certaines qui vont rester vraiment sur la durée, c'est drôle. Mais c'est de se dire, c'est quoi un peu tes... Alors, généralement on fonctionne avec trois, parce que pourquoi faire d'autres quand on peut faire trois. Mais tes trois un peu piliers, tes trois motivations. Toi, par exemple, Marion, tu disais la liberté, c'est un de tes piliers. Et c'est aussi de se dire, dans tes projections, dans ton quotidien, un petit peu tout le temps, où est-ce que je me situe par rapport à ces trois valeurs ? Laquelle est respectée ? Laquelle ne l'est pas du tout ? Qu'est-ce qui coince potentiellement ? Ou qu'est-ce qui se passe très bien ? Et pour aussi jauger un peu de la voie que tu prends par rapport à ça. Et encore une fois, quand tu peux te le permettre. C'est quoi, vous, un petit peu, vos piliers ?
Alors, moi, enfin, c'est un peu contradictoire, mais... Enfin, c'est pas contradictoire, mais j'avais... un de mes piliers, c'est la famille. Mmh. Et en même temps, j'ai cette envie de partir à l'autre bout du monde, loin de ma famille. Donc, c'est un peu contradictoire. Après, c'est sur le court terme, cette envie-là. Donc, je me vois pas vieillir loin de ma famille et loin de la France aussi, accessoirement. Mais du coup, c'est un peu contradictoire actuellement, finalement.
Qu'est-ce que tu cherches dans le voyage ? Qu'est-ce qui te plaît dans le voyage ?
Voilà, j'aurais peut-être dû réfléchir. Bah, en vrai...
Désolée.
Ouais, non, mais... Enfin, c'est...
Moi aussi, je suis curieuse, je voudrais bien avoir la réponse à cette question.
Ouais, mais en fait, moi, une des pensées que j'ai assez régulièrement, c'est de me dire que le monde, il est tellement vaste, il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de paysages différents... Il y a tellement de nourriture différente, il y a tellement de mentalités, enfin, tout est tellement différent et que une vie entière à voyager ne suffira pas à tout voir. Donc j'ai cette envie peut-être de voir un maximum.
Bah, t'es curieuse.
Ouais, c'est de la curiosité, c'est bah ouais. Une envie de... J'ai voyagé pour la première fois en solo cette année et en fait je trouvais ça génial de juste être avec toi-même, de faire ce que tu veux, quand tu veux. T'as une espèce de liberté en fait qui s'ouvre à toi. T'as un champ des possibles. Voyages
en plus solo. Enfin, t'es pas comme moi qui ai chouiné dans un podcast en disant je suis allée à Amsterdam toute seule pendant 3 jours.
J'ai fait un mois en Thaïlande.
Voilà.
J'ai fait un mois en Thaïlande.
Mais quand même, c'est autre chose. Enfin, c'est un vrai voyage.
Enfin, en plus, t'as l'impression d'avoir un peu une coupure dans ta vie. Enfin, c'est trop étrange comme.
Moi, j'en ai besoin.
Ouais, c'est ça. T'es hors du temps. Il n'y a plus de. Bah, du coup, t'as plus de famille. Enfin, j'adore ma famille et tout se passe très bien dans ma famille, mais t'as plus les problèmes liés aux familles, aux amis. C'était juste, t'es loin de tout, t'es dans ta bulle et tu partages des trucs de fou avec les gens que tu rencontres et tu vis une nouvelle expérience.
Tes trois piliers, c'est un peu la famille, la curiosité et le calme, finalement.
Ouais, je pense que ça me correspondrait.
Enfin, bien. Tu vois, calme au sens paisible. Enfin, paisible
Ouais. Être toute seule.
Ouais.
C'est pour ça que je suis toujours toute seule à 26 ans.
Oui, mais tu vois, une fois que tu remplaces le mot voyage par curiosité et paisible, c'est pas du tout contradictoire avec famille.
Ouais, c'est vrai.
Je me permets, c'est gratuit.
Oui.
Tu nous envoies tes factures après.
C'est oui, à la fin du podcast. Et toi, Marion ?
Moi, je pense qu'en plus de la liberté, il y a quelque chose un peu comme toi qui est peut-être un petit peu contradictoire, mais c'est la notion de responsabilité. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se traduit de plein de manières différentes, mais je pense que c'est une question de fidélité un peu à qui on est. Moi, je pense très 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 souvent à qui j'étais quand j'étais petite.
Non, mais toi, c'est ton thème astral, c'est tout. Enfin, on
c'est
fera possible. Un épisode dédié.
C'est possible. Mais quand je repense à la manière dont je me voyais dans le futur, j'ai tellement l'impression aujourd'hui de correspondre à ça. Je suis trop contente, quoi. Enfin, pour le coup, moi, j'ai déjà l'impression d'avoir réalisé mon rêve quelque part, mais juste parce qu'en fait. Je suis l'adulte de... Enfin, je suis la version adulte, je suis l'évolution de l'enfant que j'étais, quoi. mais avec, avec son côté un peu, je sais pas, j'ai un côté un peu malicieux, un côté un peu aventurier, un peu, j'ai pas trop envie de respecter les règles, mais en même temps, je pense, je vais pas envoyer des milliers de compliments non plus, mais je pense que je suis vraiment quelqu'un de fiable, et pour moi c'est hyper important la fiabilité, enfin si tu me demandes quelque chose, ou si quelqu'un a besoin d'aide, ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, ou que moi je me suis engagée à faire quelque chose, je vais le faire, enfin je, voilà, c'est quelque chose qui est aussi important dans le cadre de mon travail au quotidien. J'avais pas forcément tout le temps ce même sentiment de responsabilité quand je travaillais dans un groupe avec d'autres gens, dans un contexte d'équipe, etc. Parce que c'est très fluctuant. Enfin, on n'attend pas tout de toi. Et en fait, moi, si on n'attend pas tout de moi, je sais pas trop quelle quantité d'efforts je dois donner. Et
t'étais
en fait,
quand même porte-parole du personnel.
Pardon, ouais,
je
ouais.
me permets. Oui, alors mais... ça paraît. Parce que je, en j'ai... termes d'engagement.
Et ça, pour moi, c'est, ça, énorme, c'est hyper vois. Important. Ouais, parce que pour le coup, en termes de responsabilité, je sais que. Je lâche pas. Enfin, quand il y a une injustice ou quelque chose, et ça c'était déjà vrai quand j'étais petite. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir gardé ça par contre de mon enfance. Parfois ça m'amène à des situations pas cool parce que je m'énerve très fort, je fais des choses pas très cool et tout.
Tu veux qu'on fasse l'épisode sur la colère ensemble?
On peut, je pense. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais oui, donc je me mets dans des colères noires parce que bah, y a des choses que je trouve totalement choquantes et dégueulasses. Et bref, ça me met hyper en colère et ça me contrarie pendant des jours, des nuits. J'ai pas dormi parfois parce que j'étais trop énervée. Enfin, voilà. Mais pour moi, en tout cas, c'est hyper important de pas étouffer ces émotions. Bon, j'aimerais bien pouvoir peut-être les canaliser un peu mieux de temps en temps. Et bref, le fait d'être responsable par rapport à ça, c'est assumer en fait ce que je ressens et le partager aux personnes qui sont concernées. Et voilà, dans les cadres aussi, dans des situations amicales où il y a un problème, effectivement, ça nous est jamais arrivé, Chloé, pour l'instant. Hâte.
Mais je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça, enfin, toutes les deux, ouais. On a un peu ce même fonctionnement, ce qui fait que...
Bah, moi, je vais donner un feedback,
même quand ça allait pas, parce qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble, ouais. Les autres, ou quand il y en a une qui a eu un comportement, ou ouais. Bah, l'autre s'est vexé. En fait, on se l'est toujours dit, et il y a du coup jamais eu de sujet, mais parce que là, pour le
mais
coup...
Mais c'est sain, tu vois, enfin, du coup, les choses
bah,
sont
pour
claires.
Moi, du coup, là-dessus, enfin, tu vois, t'as la notion de responsabilité slash loyauté, il y a un peu un mélange des deux,
très important.
Et en fait t'as la liberté évidemment et t'as la transparence.
C'est pas du tout mon éducation pour le coup, c'est une réaction à mon éducation et c'est quelque chose que je cultive vraiment beaucoup. J'ai fait quand même changer pas mal de gens dans ce domaine. Les gens avec qui j'ai été, avec qui je suis sortie, c'était pas possible de fonctionner avec d'un côté quelqu'un qui dit rien et moi de l'autre côté qui ai vraiment besoin de construire les choses. Alors soit ça a cassé, soit ça a poursuivi. Encore une fois, on parle pas des ruptures.
T'entends, Louis.
Ce n'est pas le sujet.
Exprimer ses sentiments.
Mais ouais, c'est.
Oh ouais, oh.
C'est toujours, toujours complexe. Mais j'en ai déjà parlé dans un autre podcast.
Je mettrai de toute façon les liens en description de vos épisodes respectifs, comme ça les gens pourront
m'aller. Mais ça, tu vois, si je le réécoute, je me dis bah ouais, ma vieille, t'avais raison et t'as encore raison. T'as
bien
raison.
J'ai réécouté même. Un moment j'ai réécouté pas mal des podcasts parce que je vais faire un travail avec et j'ai réécouté aussi le mien. Je suis tellement pas d'accord avec tout et c'était l'année dernière, c'est pas si loin.
Mais tu vois, moi j'ai une sorte de constance, enfin j'ai fait plein de conneries, il y a plein de choses que je regrette, plein de choses, mais pas tant franchement. Enfin, les erreurs que j'ai faites, c'était des erreurs qui étaient circonstancielles, quoi. Pour commencer, j'ai reconnu ma connerie, ce qui est très important, et surtout j'ai évolué, quoi. Enfin, je me suis servi de ça en me disant, ok, ben voilà, c'est ce que je veux dire aussi par responsabilité. C'est d'abord vis-à-vis de moi-même, et après, évidemment, vis-à-vis des
puis
autres.
Mais... Même dans le sujet de se projeter dans 10 ans, le fait d'avoir des regrets, d'avoir aussi des enseignements de ce que tu as pu tirer, de ce que tu as fait et tes évolutions. Évidemment que ça impacte aussi cette vision-là et tes plans. Et toi, Louis, c'est quoi un peu tes trois piliers
J'ai essayé d'en identifier deux, on verra si on en trouve un troisième. J'y reviens, mais du coup, le confort. Je suis quelqu'un qui reste quand même finalement profondément introverti et j'ai besoin d'avoir ces moments où je vais me retrouver chez moi dans un endroit que je sais safe et j'ai besoin que cet endroit il soit confortable. C'est vraiment mon image de rêve finalement, c'est la grande maison avec au milieu de la forêt avec un grand feu de bois et un truc comme ça.
Shrek.
Mais oui, c'est ça.
C'est
mon marais avec un gros canapé, des coussins partout où je sais que je peux retourner au fond de ma caverne. Ouais. Et ça, donc c'est vrai que je le construis beaucoup autour de ça parce que j'ai besoin de ce temps 3 là, je pense un deuxième ça va être l'utilité. J'ai besoin de me sentir utile, que ce soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, au niveau amical. Je suis pas bien si je peux pas rendre service aux autres. Je m'en fous à 100% qu'on vienne me rendre service. J'ai besoin de me sentir utile auprès des personnes proches de moi. Et du coup, je me construis beaucoup par rapport à ça. Et je pense que c'est un des sujets qui a mené à mon burn-out. Ça fait, je pense, bien 6 mois que je suis en burn-out. Je l'ai identifié là, c'est très très récent. Je suis en arrêt depuis avant-hier. Mais c'était quelque chose qui couvait depuis très longtemps. Et c'est un truc qui va, je pense, me permettre d'avancer. C'est la clé lecture qui me manquait, mais qui va aussi me permettre de me remettre un petit peu tout ça en considération. Parce que, ok, ce taf m'amène cette stabilité, m'amène ce confort. Honnêtement, j'ai ce confort financier et autres comme ça que j'aime. Et qui... Est-ce que ça m'apporte au quotidien? Est-ce que j'arrive à me retrouver au quotidien dans les choses que je fais et
Plus que du confort, moi je dirais de la sécurité, ouais, dans la définition ça. Que t'en fais en fait.
C'est ça.
Oui.
Parce que t'es quand même quelqu'un, tu vois, qui tente de nouvelles choses, qui sort un peu de sa zone de confort aussi. Enfin, on en parlait dans l'autre soir, mais oui. Tu vois, t'as fait un festival où t'as rencontré de nouvelles personnes, t'as bien créé de nouveaux cercles, etc.
Bah, c'est ça. Et puis, cette sécurité, elle est pour moi, mais elle est aussi pour la personne avec qui je suis en couple.
Ouais, c'est ça.
Parce que la personne avec qui je suis en couple, Anne-Lise, reste finalement dans un moment de sa vie où elle est vachement précaire. Et du coup, je me dis que, en fait, c'est moi qui apporte, s'il n'y avait pas mon salaire, on ne pourrait pas vivre là où on vit.
Mmh.
Et du coup, si je venais à quitter le taf que j'ai actuellement, il faudrait qu'on repense totalement la manière dont on vit actuellement. Et du coup, ça apporte aussi ce degré de responsabilité et d'absence de liberté. Mais en même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Personne ne me l'a obligé à... Oula. Personne ne m'a obligé à prendre ce taf-là. Personne ne m'a... Ça reste finalement des choses qui viennent que de mes choix. Je m'en viens maintenant enfin à les reconsidérer, me dire ok, est-ce que ces choix je les ai faits pour la bonne raison ou non.
Alors moi, parce que vous me posez la question, mes 3 valeurs,
c'est... Bah oui. Et toi, Chloé, c'est quoi tes 3 piliers?
J'ai enchaîné sur d'autres questions, du coup.
on veut savoir.
La créativité, évidemment. Dans la créativité, je rentre la passion et la curiosité, en fait. Mais la curiosité, c'est aussi pas mal un pilier, en vrai. Ouais, curiosité, créativité. Et le dernier, je pense, c'est pas liberté, c'est autonomie.
D'accord avec ça.
En fait, si je peux apprendre à faire un truc toute seule, je le fais.
J'allais te dire, exactement ça. Je pense que t'aspires à pas avoir besoin de demander.
Ouais,
de
et demander. J'essaye et après je m'énerve parce que ça marche pas bien. Et après je fais pardon, j'ai besoin d'aide. Mais j'essaye toujours une fois toute seule parce que... déjà, je sais que je suis capable. En fait, je me dis, à partir du moment où d'autres arrivent à le faire, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Évidemment, dès que ça implique d'avoir des muscles, je me pose des questions et je fais bah non, tu ne vas pas le faire seul, ça ne marchera pas. Mais pour tout ce qui est manuel de petite taille et tout ce qui va être intellect, je préfère essayer solo une première fois. Et si ça marche pas, effectivement, je demande de l'aide ou je m'entoure dès le début. Mais j'ai toujours cette petite satisfaction de me dire en fait, je l'ai fait seul et c'est trop bien. Et c'est une force en fait, ça a ses limites, mais. Mais ça fait partie clairement de mes valeurs, d'être autonome. Je le vois, et j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais les potes de ma grand-mère qu'elle doit conduire en voiture parce qu'aucune n'a le permis, parce qu'elles ont toutes dépendu de leur mari à leur époque. Alors je n'ai toujours pas le permis, mais c'est normal. Pour l'instant, je suis dépendante de mes amis, et ça, c'est déjà moins pire. Voilà. Mais mais ça fait totalement partie des choses. Je sais qu'il faut que je me... Encore une fois, que je me bouge les fesses pour le faire, puisqu'une autre de mes valeurs subies, c'est la procrastination. J'adore remettre les choses à plus tard, Mais ouais, ça joue un petit peu. Et du coup, pour en revenir finalement au début du podcast, vous vous voyez où dans 10 ans? Si je vous pose la question là, comme ça. Alors, Louis vient de se prendre la tête, déjà.
Non, si, mais je pense que... Parce que, justement, voilà, en ce moment, je suis, comme je dis, en burn-out, du coup, qui est aussi le moment du questionnement.
Mais c'est pas le meilleur moment pour enregistrer cet épisode.
Voilà. Oui. Je pense qu'il y a deux possibilités où j'ai réussi à faire la paix avec mes envies et j'ai réussi à faire le tri de ce que je voulais, ce que je voulais pas, et que j'ai réussi à trouver un équilibre au niveau vie pro, vie perso, et je suis resté dans un schéma classique où du coup On est avec Annelise dans une maison ou en banlieue ou dans une ville, dans une grande ville de France, et on fait beaucoup de télétravail, on a nos projets à côté, mais on a chacun un petit peu nos tafs. Ou alors j'ai reviré complètement, et le rêve aspiration que j'arrive jamais à mettre en mots, mais que voilà, je fais du théâtre à 100% et j'ai réussi à me lancer là-dedans. C'est les deux axes possibles. Et voilà, et le fait que j'ai pas dit théâtre jusqu'à la fin de ce podcast, c'est aussi encore la preuve que je fonctionne beaucoup plus par la peur que par le rêve.
Et
je
puis
crois.
En plus, le théâtre, tu l'avais pas mis dans ton premier. Dans tes deux petites branches là.
Non.
Dans tes choix. En vrai, tu pourrais très bien avoir ta maison à Nantes au hasard. et ton taf et faire du théâtre en parallèle en fait.
Ouais. Oui, dans tous les cas. Dans la première branche, le théâtre est quand même présent. S'il y a des travaux, c'est parce que le théâtre a repris sa place.
C'est bien, verbalise-le parce que je ferai écouter l'épisode dans 2 ans. T'as intérêt à avoir fait d'être inscrit à un cours de théâtre. Toi, Ameline ?
Bah, je pense que la conclusion à tout ça, c'est que je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je pense que, enfin, en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à réaliser toutes ces. Toutes ces envies, pas ces micro-envies, pas ces micro-rêves, ces envies, ces rêves. Je pense quand même avoir, mais je pense que je rechercherai peut-être là, à ce moment-là, un peu plus de stabilité. Puisque bon, dans 10 ans, j'en aurai 36, donc j'espère quand même que j'arriverai à un point où je me dirai, bon là, ce serait peut-être temps de se poser et d'avoir, je sais pas, un chez-soi. Déjà, si je pouvais avoir un chez-moi dans 10 ans, ça serait bien. Avant, ça serait bien aussi, mais au moins dans 10 ans. D'avoir écrit un livre, d'avoir publié un livre, d'avoir un chien, j'aimerais bien adopter un petit chien, mais c'est pas dans. Voilà, il faut le temps, il faut le.
Ouais, vis-à-vis en 10 ans, hein, t'es large, ouais. Vraiment.
Non, mais je veux dire, il faut le temps pour s'occuper du chien, ça prend énormément d'énergie, ça prend.
Dans une décennie, tu seras en forme, etc. T'inquiète.
C'est ça, ouais, 36 ans, je serai toujours en forme, on espère. Est-ce que je serai encore là à 36 ans?
Et ça prend un tout autre tournant.
C'est vrai que tu n'as pas passé les 27. Alors, parlons de la mort.
C'est ça,
Le club.
Tu sais que quand j'étais petite, à un moment, je me disais que j'allais jamais passer les 27. Et j'étais persuadée que j'allais crever à 27 ans. Bah, c'est horrible comme pensée.
Moi, j'ai l'impression que je vais mourir jeune, en vrai.
Oui, bah pareil.
Dans Glock. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on s'imagine pas vieux.
Je sais pas, mais moi je me suis toujours imaginée mourir pas très âgée en fait, enfin pas tant que ça, tu vois.
Mais moi je m'imagine trop en petite mamie.
Mais moi aussi.
Et bah il y a deux clans.
Mais t'as exactement une petite mamie.
On se fait une petite maison avec nous, petits vieux.
Ouais, bah une petite maison, un petit EHPAD.
Oui, mais c'est nous qui manageons.
En coopérative.
Voilà.
Et on manage, bien sûr. Autonome et liberté. Pas de programme imposé. Moi, ce que je voudrais, c'est pas d'heure de réveil et pas d'heure de coucher.
Mais
sûr.
On est collaboratif. Bah, après, et on pas fait les tâches ménagères ensemble.
Yes. Attention. Yes. C'est ça qui me plaît.
Ouais. Après, quand t'es vieux, hein, 5 heures, t'es déjà debout.
Il
dit 10 heures, t'es couché.
Ça, c'est le rêve. Je suis pressée d'être vieux pour enfin me lever tôt. Mais ils se lèvent tous tôt, ils ont tellement de temps dans leur journée.
Mais c'est parce qu'ils sont pas assez fatigués de leur journée.
Je pense que c'est ça.
Ou parce qu'ils ont eu des enfants. Parce que moi, c'est aussi ça qui me fait peur avec le fait d'avoir des enfants. Ma mère, elle s'est jamais réveillée après 6h30 depuis qu'elle a eu des enfants. Moi, je peux pas vivre comme ça, en fait. Enfin, c'est pas possible. Ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est ça. Et mon vrai no-go pour le chien, moi, c'était ça. De toute façon, globalement, c'est l'heure à laquelle je me lève, c'est un vrai sujet. C'est aussi pour ça que je peux pas avoir un travail normal comme tout le monde, parce que j'ai besoin de dormir. Quoi. Ou de me coucher très tard. Ou les deux, du coup.
Ça va ensemble, généralement. Dormir, c'est important. Et c'est toi, tu te vois où dans 10 ans, du coup?
Bah, du coup, ce que je viens de dire est un peu contradictoire avec ce que je viens de raconter après. Mais c'était Barbara qui parlait, c'était pas Marie.
Je me vois dormir.
Je me vois dormir. Pour la vie.
Non, tout jamais. Moi, j'aime bien ton idée de voir les choses avec des options. C'est pas mal, on sait pas trop. Voilà, option A, plan B, plan C. Alors oui, moi, j'essaie de faire des plans de temps en temps, mais effectivement, il y a vraiment les vrais gros plans sur la comète, puis les trucs plus crédibles, mais qui du coup sont un peu plus boring et puis un peu stressants. Mais ce que je me dis, c'est que dans la perspective de prendre plus au sérieux mon travail, mon expertise, ma façon de travailler, etc., et de développer du coup cette activité, bah, la suite logique, c'est de créer une agence. c'est un métier qui me plaît. Je veux pas l'exercer à tout prix, c'est-à-dire c'est à certaines conditions, avec une certaine éthique, pas tous les clients, pas tous
quand
les projets.
Quand tu dis agence, on parle d'agence de communication.
Oui, c'est important de préciser. Mais en tout cas, ouais, ça m'intéresserait beaucoup de m'entourer voilà, de personnes talentueuses, de personnes que j'admire, avec lesquelles j'adore travailler sur des projets. Enfin,
t'es pas obligée de parler de moi à la troisième personne.
Voilà, je vise personne bien sûr dans cette pièce. Mm-hmm. Mais voilà, en tout cas, ça, ça serait une perspective. Après, c'est une perspective de taf. Mais dans l'idée aussi de travailler différemment, et c'est très important pour moi, et c'est vraiment comme ça que j'envisage l'avenir, quel que soit cet avenir. Là, pour le coup, c'est vrai pour tous les plans A, B et C. Je veux avoir du temps pour moi et avoir du temps pour mon bien-être, pour prendre soin de ma santé. J'ai deux parents qui ont consacré énormément d'énergie à leur travail, c'est toujours le cas pour mon père, qui est, en, je pense vraiment on peut le dire, en burn-out permanent quoi, depuis toujours. J'ai l'impression que ma sœur prend ce chemin, si tu m'entends, fais gaffe, je t'aime, prends soin de toi. Mais j'ai pas du tout envie de... Enfin, d'oublier en fait, de me laisser embarquer dans ce truc-là, alors que... Au fond, personnellement, je travaille parce que ça me plaît de travailler, mais je travaille surtout parce que j'ai besoin de payer des factures, en fait. Donc j'ai pas envie que le fait de payer des factures, ça me tue la santé. J'ai pas envie de consacrer l'essentiel de mon énergie à ça, surtout dans la perspective d'avoir une famille, parce que je pense quand même que dans l'idée, c'est ça qui va se passer, volontairement, je tâcherai qu'on s'entende. Non, mais parce que là, en fait, vous verrez quand vous aurez 32 ans, mais c'est...
Tu parles de
vrai, ton rendez-vous. C'est un peu... Mais il se... Enfin, vraiment, il y a un passage, par exemple, où t'as 30 ans. Enfin, j'ai pas fait un rendez-vous gynéco. On m'a pas dit, du coup, là, c'est bientôt, là, il serait temps d'y réfléchir. Ah, vous êtes dans une relation stable. Mais du coup, voilà. Donc, bon, et puis, bah, accessoirement, mon mec veut avoir des enfants aussi. Encore une fois, j'ai pas envie de galérer. Et je pense que ça serait vraiment très compliqué de rester ensemble et d'être heureux. Pour lui, en tout cas, hein, si ça n'aboutit pas, ce projet. Donc, ouais, en vrai, j'ai un peu la pression, quand même. Pas spécialement de lui, ni vraiment de la société, mais de fait, j'ai la pression de la biologie, quoi, déjà.
Du coup, dans 10 ans, tu te vois avec des gosses, potentiellement.
Ouais,
dans
une mais pas un.
Plusieurs. Idée. Ouais.
Ouais, parce que j'ai adoré avoir une sœur. J'en ai pas eu pendant 4 ans. Après, elle est née, c'était trop cool. Et ouais, je veux vraiment avoir...
Non, mais quand t'as dit j'en ai pas eu pendant 4 ans, ouais. C'était de quoi?
J'étais, j'avais pas de sœur. Non mais vraiment, moi me rappelle du manque, en
c'est
fait.
Vrai
je m'étais inventé un frère imaginaire, tellement j'étais... Ouais, j'avais un sentiment de solitude, de ouf.
Moi c'était horrible quand il est arrivé.
Mais c'était horrible quand elle est arrivée, parce que du coup ça devait être un garçon, toutes les échos c'était un garçon, et c'était une fille finalement, et moi j'étais vraiment un petit garçon manqué quand j'étais gamine, je pense pas que ça allait tant changer que ça. Maintenant, mais du coup quand elle était là, franchement je me suis dit mais non pas du tout en fait, je vais vous raconter un truc horrible, je dois le dire dans ce podcast, vraiment horrible, hein. Mais bon, il faut assumer.
Du coup, n'écoute plus.
Si tu es là.
Non mais elle le sait, elle le sait, elle est au courant, elle a parlé 100 fois.
Toutes les deux maintenant.
Oui, mais j'ai emmené mon père vers la poubelle de la cuisine et je lui ai dit, on la met là maintenant et on recommence. Et mon père a dit, pas du tout, non.
Absolument pas.
Et en fait, je pense que...
Et elle a rappelé que dans ses piliers, il y avait la responsabilité. Disons-le.
Ouais, voilà, elle a pris la décision que les autres n'osaient pas. Vous avez vraiment, voilà, faut dire, hein, c'est pas le bon modèle.
Mais voilà, parce que je me suis rendu compte que c'était très grave quand même. Enfin, peut-être pas que c'était très grave, en tout cas, c'était vraiment pas bien. Ce que j'avais dit, et que c'était vraiment pas gentil. Et quand j'ai compris que c'était pas bien, j'ai pris tous mes doudous, enfin la moitié de mes doudous, vraiment, on prend 50% de doudous, je sais pas, je dois en avoir 20, j'étais un enfant très gâté. J'ai pris 10 doudous au hasard, y compris aussi mes préférés dedans, je précise, merci Élise, écoute ce que je raconte, c'est vrai. Et je les ai amenés dans sa chambre. Et je me suis dit, ok, c'est mon truc de pardon, on repart sur de bonnes bases, tu vois. 4 ans. Mais donc voilà, donc j'imagine, je trouve que ça nous a apporté beaucoup, je pense, à toutes les deux, d'avoir un frère, une sœur, enfin d'avoir une sœur en l'occurrence. Et, on s'est beaucoup chamaillé. Mais moi, j'ai envie d'avoir deux enfants qui grandissent ensemble, qui s'apprennent des choses, qui sont là l'un pour l'autre, pour toujours, après ma disparition aussi, ça c'est très important.
Moi je me projette beaucoup
par contre.
Vous voyez,
on avait dit 10 ans. Hein,
Ouais, c'est ça.
On va refaire ce podcast à 60.
Oui, mais dans la décision d'avoir des enfants, enfin désolé, mais il faut penser. Oui. Moi je pense à leur propre mort même, tu vois. Enfin, je le vois aussi parce que, en l'occurrence, ma mère est seule et enfin.
Elle s'occupe
voilà, c'est difficile. Enfin, je pense qu'on affronte la vie quand même plus facilement.
Ben, plusieurs.
Quand ça se passe bien avec les frères et sœurs, parce qu'il y a des relations aussi qui sont horribles et voilà. Mais quand ça se passe bien, en tout cas, franchement, c'est réconfortant, en fait. Moi, ma sœur, je la considère vraiment comme une amie pour toute la vie. Même si on n'est pas d'accord sur plein de trucs, même si on s'est beaucoup chamaillé. Franchement, maintenant, on est arrivé à un stade où on est tous les deux adultes et je vois le bénéfice d'avoir cette personne dans ma vie. Donc oui, je souhaite exactement ça à mes enfants. Ça, oui, clairement. Franchement, même pour la question du travail, je reviens à l'argent parce que désolée, mais en fait, c'est elephant in the room.
Non, mais de toute façon, l'argent, les enfants, mais c'était un peu les... Et le contexte et le travail, c'est les quatre angles un petit peu évidents, en fait, quand on se pose cette question aujourd'hui à nos âges. Hein.
Bah, de toute façon, un des... Enfin, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans ? Ça dépendra de notre stabilité financière ou pas, et est-ce qu'on aura la belle maison.
C'est pour ça qu'on a dit un rêve.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a aussi une question géographique. Enfin, toi, tu parlais de ça par rapport à tes envies de voyage. Oui. Et tu dis, tu t'imagines te poser près de ta famille. Et voilà, aussi, une autre question que je pose comme ça, là, je la balance là dans la conversation, mais c'est pareil, quand on a quelqu'un dans sa vie, et quelqu'un qui a sa famille à un autre endroit, est-ce qu'on va près de sa famille à lui, près de sa famille à soi, en fait, franchement, à deux... alors, je suis pas concernée par cette question, mais je sais qu'elle existe. J'ai beaucoup d'amis qui ont été dans une situation de relations binationales. C'est compliqué, quoi.
En vrai, pendant notre conversation, je me suis quand même rendu compte qu'il y a... Enfin, on se rejoint quand même assez bien, je trouve. Mais il y a vous deux qui êtes en couple et en plus dans une relation stable. Et nous deux qui ne sommes pas en couple et que... Enfin, du coup, on n'a pas la même perception aussi de l'avenir. On se voit peut-être pas aussi au même endroit. Parce que nous, on a cette liberté, pour rebondir sur ce que tu disais, de réfléchir pour nous-mêmes et de ne pas prendre en compte les souhaits de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Ouais. Donc, on a une forme de responsabilité. Enfin, toi, je pense que c'est plus sur la question du coût de travail et financière, là, pour l'instant. Mmh. Et moi, c'est sur la question biologique et enfant. Mmh. Et en fait, on n'a pas complètement les coups des franches, là, pour se dire « Ah, vas-y, je réinvente tout ». Enfin, si, en fait, on pourrait, mais ça a des conséquences.
Pour c'est ça, c'est que ça a des conséquences et que je sais très bien que je voudrais le faire, cette opération. Annelise me suivrait à 100%.
Ouais,
Mais ça, en fait, c'est que j'ai même pas envie de lui imposer.
Mmh. En fait, c'est la différence, je pense, entre ton rêve et ton... Tu as ton rêve à toi, et la réalité de ce qui sera faisable ou non dans un couple, pour pas que ça vous mette encore une fois en danger. Après, je pense que, avoir ces rêves-là et ces aspirations personnelles, faut pas les oublier non plus quand t'es en couple,
et puis,
parce que ça peut t'amener sur des trucs super chouettes, en fait.
C'est le principe, des individus. Je vais être totalement honnête, ça reste mes peurs à moi qui me bloquent avant même de me dire que c'est Anis qui me bloquerait. Donc,
Mais oui, on te fait des bisous, Anis.
Oui.
Quitte à faire des bisous avec tout le monde dans
cette et à mon chien.
Oui, ma vie,
la star. Et à
Nouchka qui n'a pas dérangé pendant ce podcast.
Non.
GG à elle.
Pas un miaulement.
Pas un miaulement, juste posé derrière nous.
Ouais.
En vrai, reine.
Et toi alors, Chloé ?
Et toi alors ?
Parce que toi, t'es sympa là, tu nous poses plein de questions là, qui nous font nous poser plein de questions stressantes.
Bah ouais, vous avez accepté mon invitation, allez-vous y préparer.
Et toi, Chloé ? Tu te vois où dans 10 ans ?
Bah, il y a quelques mois, je vous aurais dit, je sais vraiment pas, j'étais pas mal paumée. Là, ça va mieux, la motivation est de retour, et je dirais que dans 10 ans, il y a un truc qui est un peu dans mes constantes de façon, c'est que j'aimerais une maison hyper lumineuse avec une forêt de pins pas loin. Ça reste très très spécifique, mais c'est vraiment, et pas très loin de la mer ou de l'océan, c'est vraiment hyper important. C'est des lieux qui m'apaisent en fait et où je me sens vraiment vraiment bien.
Tu veux qu'on achète la maison où on a passé mes 29 ans ?
Grave, moi la test typiquement, côte ouest, de toute façon, bisous. Donc non, ça joue, après, je le vois dans 10 ans parce qu'aujourd'hui j'aime beaucoup trop aller sortir, aller au musée, etc., découvrir plein de trucs à Paris et que c'est pas quelque chose que je pourrais retrouver dans cette configuration-là, en tout cas pas au quotidien, mais par petite dose. Il faut pas oublier aussi qu'on, toujours possible de bouger et autres. Et dans 10 ans, j'aimerais bien avoir en tout cas un lieu à moi, on en revient à ça, mais...
C'est-à-dire être propriétaire ou...
Ouais, avoir une maison, vraiment. Je pensais pas que c'était si important pour moi, et en fait, si c'est vraiment un motif récurrent, la maison ou le lieu ou la pièce, j'ai vraiment besoin de m'ancrer physiquement dans un endroit parce que ça fait partie des choses très importantes. Bien m'entourer avec mes proches, mes amis, ma famille, ça c'est aussi important, pas forcément géographiquement parlant, mais qu'on soit là les uns pour les autres, passer du temps de qualité avec mes proches, ça c'est hyper important. Et du coup, un autre projet qui rejoint ce que tu disais, Marion, moi j'aimerais monter effectivement aussi ma structure.
Ah ouais.
Donc on la monte ensemble, voilà, spoiler.
Okay,
oh là là, c'est pas comme si on en parlait depuis un moment. mais j'aimerais vraiment monter mon agence parce que, encore une fois, autonomie, créativité, je sais que je m'y retrouverais mieux que de travailler pour des gens, ou enfin pour des gens d'un point de vue hiérarchique. Encore une fois, j'aime bien être autonome, tester des choses, rater, recommencer. Et ça, je trouve que dans l'entrepreneuriat, ça se retrouve. Donc, et ça rejoindrait aussi mes passions, parce que j'ai la chance de faire un métier passion, dans le sens où, là, ce que je fais avec le podcast aussi, à côté, en fait, ça peut rejoindre par plein d'aspects mon travail, et je le considère comme un travail d'ailleurs à part entière, le club. Mais j'écris, je réalise, je... fais speakerine, animatrice, je fais de la créa, enfin je fais tellement de choses que en fait sans taf je fais déjà, donc ça se rejoint assez bien et j'aimerais vraiment pouvoir pousser ça. Mais après, si on est tout à fait honnête, dans 10 ans j'aurai presque 40 ans, donc la crise de la quarantaine voilà, sera pas très loin, donc c'est potentiellement à ce moment là je remettrai tout en question et j'en vais tout péter, mais c'est un petit peu ça en tout cas que je me souhaite là comme ça. En projection. Du coup, encore une fois, c'est des rêves tout à fait atteignables et faisables, quoi. Pas non plus vivre sur la lune. Ce que je ne souhaite vraiment pas. Qu'est-ce que ça serait chiant. Sur ces bonnes paroles, on est à la fin du podcast. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @clocloclub. Je suis sur Instagram et sur TikTok et on partage plein d'autres choses dessus. On échange beaucoup ensemble et c'est très chouette. Évidemment, vous pouvez partager le podcast autour de vous. C'est ce qui vraiment aide aussi à faire grandir le Clocloclub. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!
Bye!
Oh, vous êtes si mignons!
J'allais dire moi aussi.